Vous écoutez la radio des descendants africains au Canada, Mucho. Mon nom est Marat Naimana, à la présentation de l'émission Impact. Notre invité du jour est le pasteur Dieudonné Naimana, fondateur de New Generation et de Oasis Christian Center Burundi. Il est en visite au Canada pour une série de conférences. Nous le joignons à Montréal. Bienvenue, pasteur Dieudonné, sur la radio Mucho.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Et le plaisir de même. Vous avez un long parcours personnel et on va y revenir plus tard. Et pour commencer cette interview, parlons de l'impact du sport sur la jeunesse. Demain débutera la 23e édition de la Coupe du Monde. Par le passé, vous et l'équipe des enfants de la rue du Burundi, Imboneza, vous avez vécu des moments extraordinaires durant la Coupe du Monde de la rue des enfants, à travers la campagne notamment « Je suis quelqu'un, I am somebody ». Pouvez-vous nous parler de cette expérience ?
Et merci beaucoup. Depuis peut-être plus de 25 ans, je travaille avec les enfants de la rue dans la ville de Bujumbura et dans d'autres coins du Burundi. Comme vous savez, le Burundi a traversé des années de guerre. Alors, on a eu beaucoup d'enfants dans la rue. Alors, dans ce programme, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme thérapie pour un peu amener les enfants à être guéris des blessures du passé, de ce qui les a blessés. Alors, on a essayé beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte que le football était le moyen le plus efficace. Premièrement, parce que les enfants jouent au football comme un jeu, mais en même temps, aussi une opportunité de les amener à guérir de blessures du passé. Donc, quand on a commencé, on n'avait pas une intention de participer dans des compétitions internationales. Ce n'est qu'en 2013 qu'on a été contacté par une organisation anglaise qui s'appelle Sweet Child United, qui nous a dit qu'on a été sélectionné pour participer à la Coupe du Monde des enfants de la rue, qui se fait toujours en marge de la FIFA, mais cette fois-ci, c'était au Brésil en 2014. Alors, comme vous savez, le Burundi n'a pas une histoire de football. On a des bons footballeurs, mais qui jouent ailleurs. On n'a même pas encore participé à vraiment... ou gagner même une coupe africaine. Donc, pour le Burundi, c'était une très grande nouvelle d'entendre que les enfants de la rue du Burundi peuvent participer dans une compétition internationale à haut niveau. Et c'est comme ça qu'on est allé participer à la Coupe du Monde des enfants de la rue au Brésil en 2014. Et cela n'a pas seulement été juste une occasion de participer dans une compétition. Ça changeait carrément comment les enfants de la rue étaient vus dans le pays. Et parce qu'au retour, ils ont été reçus par le président de la République. Donc, ils sont sortis deuxième au niveau mondial. Alors que quand en partant, on n'espérait pas cette position. Donc, voilà, le football. Alors, ça a continué. Le football a continué à jouer un rôle dans le travail que nous faisons pour encadrer les enfants de la rue, pour leur donner encore... une dignité, un respect, un nom, parce qu'ils étaient oubliés par la société, mais le football leur a donné, encore une fois, un nom.
Et de retour au Burundi, après avoir rencontré d'autres jeunes et de savoir qu'ils ne sont pas seuls à avoir eu une enfance difficile, et comme vous l'avez mentionné, reçu avec l'honneur par le président de la République, quelle a été votre motivation pour continuer à servir les autres ?
Premièrement, on s'est rendu compte qu'effectivement, le talent joue un grand rôle dans la vie de chaque individu. Donc, les enfants, malgré les difficultés qu'ils ont traversées, d'où ils venaient d'un peu partout dans le monde, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un même talent, une même passion, et qu'ils voulaient aller loin avec leurs dons et leurs talents. Donc, le fait de jouer au football leur donnait l'opportunité de voir leur rêve devenir une réalité. Donc, le fait de rencontrer les autres nationalités, ils se sont rendus compte que le fait de se retrouver dans la rue, ce n'était pas une fatalité, c'est qu'ils pouvaient un jour s'en sortir et vivre mieux comme les autres enfants. Ils ont vu que c'est un phénomène qui est partout. Ils avaient des enfants qui viennent de l'Angleterre, du Brésil, des États-Unis, des pays auxquels ils ne pouvaient jamais penser qu'ils pouvaient avoir des enfants de la rue. Mais ça leur a donné une certaine confiance, une certaine... détermination à réussir. Alors, ceux qui sont venus participer à la Coupe du Monde Même dans leurs études, ils ont bien réussi. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui jouent un grand rôle dans notre pays parce qu'ils ont eu cette occasion de pouvoir rencontrer les autres, mais aussi participer dans cette compétition internationale.
Ça mène à ma troisième question. Quel modèle ces enfants sont-ils devenus dans leur retour dans la communauté?
Ils sont devenus des modèles, hein, parce que quand ils sont retournés, d'abord, tous les médias en parlaient, tout le monde disait les enfants de la rue du Bondy étaient deuxièmes au niveau de la Coupe du Monde, des enfants de la rue au niveau mondial. Alors, il y a ce qu'on appelle Legacy Project que nous faisons juste après. C'était d'organiser des tournées de compétition avec les autres jeunes dans les communes, dans les écoles. Alors, ils étaient vus comme des stars, ils étaient vus comme des gens qui sont distingués. Alors, ils étaient facilement intégrés, respectés, et même les enfants qui n'ont pas eu la chance de participer, qu'on appelait seulement les enfants de la rue parce qu'on les trouvait en train de dormir sur la rue, cette fois-ci, ils étaient respectés parce qu'il y avait même eu des discours pour dire qu'on doit considérer ces enfants comme des êtres humains, comme tout le monde. Et puis après, chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde des enfants de la rue, il y a aussi un congrès qui se fait, où les enfants s'expriment, où les enfants demandent leurs droits. Alors, cette compétition leur a donné le droit de faire je dirais, comme une pétition qu'ils ont donnée aux Nations Unies pour dire qu'ils devaient être respectés, même parce qu'ils n'ont pas choisi d'être dans la rue. Ça m'a donné aussi l'occasion d'aller à Genève, dans la commission des droits de l'homme des Nations Unies, pour réclamer qu'il y ait une loi spéciale pour protéger les enfants dans la rue, qui a été acceptée quelques années plus tard. Donc voilà, c'est ça ce qui est venu comme des retombées ou de ce qui est venu comme des bénéfices que ces enfants ont participé dans cette compétition internationale.
Et en parlant de cette compétition internationale au Brésil, moi-même, je suis un fan du football brésilien. Et donc, voir ces jeunes dans les loges qui portent les traces du football mondial, notamment dans le stade du Maracana, qu'est-ce que ces moments ont réveillé en eux?
Oui, bon, c'était un rêve qui devenait une réalité. Bon, moi, je me suis rendu compte qu'ils suivaient le football, qu'ils connaissaient les noms des joueurs que moi, je ne connaissais même pas. Et puis, ils avaient la chance d'avoir comme des parrains, des personnalités qui ont marqué l'histoire du football, hein. Ben, notre parrain dans la compétition était Bebeto, qui était quelqu'un qui a marqué le football dans l'histoire, dans le passé. Mais ils avaient aussi des messages des personnes, même qui ne sont pas des Brésiliens, comme David Beckham, qui était un patron de cette compétition. Donc, pour eux, c'était vraiment un rêve qui devient une réalité. Et ce qu'on leur disait que ce ne sera jamais possible, qui est devenu possible. Et ils ont pu atteindre ce que même les enfants qui ont les parents n'ont jamais atteint et qu'ils ont rêvé, mais qu'ils n'ont jamais atteint. Donc, eux, certains d'entre eux ont commencé aussi à rêver, à devenir des footballeurs professionnels et ils sont en train de se développer dans notre académie.
Et maintenant, revenons à vous, à Pasteur de Naimana. Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans vos propres mots?
Bon, il sera difficile de le dire dans très peu de minutes, mais c'est que moi, je suis né au Burundi, au nord du Burundi. Comme vous savez, le Burundi a été toujours qualifié souvent parmi les pays les plus pauvres, le deuxième pays le plus pauvre au monde pendant des années et des années. Et puis, on a traversé la guerre qui a fait que je perde mon père alors que j'étais encore jeune, en 1993, quand la guerre a commencé au Burundi. Alors, moi-même, j'ai traversé des moments difficiles. Les études se sont arrêtées à un certain niveau parce que je ne pouvais pas continuer vu la situation de guerre dans notre pays. Mais c'est de là est née la vision de commencer à préparer une nouvelle génération de leaders qui pourront contribuer à changer notre pays. C'est là que j'ai créé le mouvement des jeunes leaders qui s'appelle New Generation, qui est celui qui encadre ses enfants, mais aussi d'autres jeunes dans les écoles, dans les universités. Et alors, cela m'a permis quand même de participer au niveau sur la scène internationale, à participer à résoudre des questions qui ne sont pas seulement sur le plan local au Burundi, mais d'apporter une contribution sur la scène de l'histoire mondiale en essayant de contribuer à motiver les jeunes qui sont découragés, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, et d'essayer de les encadrer pour qu'ils puissent trouver comment libérer leur potentiel. Cela, c'est ce que je fais actuellement, où je vais un peu partout pour essayer d'aider les jeunes qui croient qu'ils sont perdus, qu'ils ne vont pas aller plus loin, et les amener à comprendre qu'ils peuvent marquer l'histoire, qu'ils peuvent être des personnes d'impact. Alors, après, je me suis rendu compte, parce que ce qui a vraiment changé ma vie était ma foi, le fait de découvrir ma foi en Jésus-Christ, en étudiant la parole de Dieu. Et c'est ce qui m'a donné aussi la responsabilité d'encadrer spirituellement, pas seulement les jeunes, mais les autres, ce qui m'a conduit à ma responsabilité pastorale. Non pas parce que je voulais être religieux, parce que je n'aime pas beaucoup la religion, mais pour transmettre un message qui libère, qui permette aux gens de connaître la raison pour laquelle ils existent sur la Terre. Alors j'ai créé en 2010, moi et mon épouse, on a commencé l'église Oasis Christian Center, qui est principalement un oasis pour les personnes qui se sentent perdues et peuvent découvrir qu'ils ne sont pas là par hasard, ils ont été créés par un Dieu qui avait un plan pour leur vie et qui doivent découvrir le potentiel qu'ils ont pour commencer à le libérer et pouvoir être des solutions à des problèmes qui existent à leur époque. Et après, cela m'a conduit à créer aussi une entreprise sociale, Ubuntu Agency, qui est un incubateur d'entreprise pour les jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des idées d'entreprendre, mais qui n'avaient pas de ressources, qui n'avaient pas les moyens financiers, qui n'avaient pas d'espace pour pouvoir démarrer, ou alors des startups, des fonds pour leur permettre de commencer leurs entreprises. Alors, j'ai créé un incubateur d'entreprise pour les jeunes, où les jeunes peuvent venir avec des idées qui les permettent de générer des revenus pour créer, faire des initiatives, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, transformation agroalimentaire, médias, événements, événementiels, sécurité et autres. Donc, on a développé un espace pour que les jeunes qui ont les capacités de créer une entreprise, on leur aide dans les premières 5 années à démarrer leur entreprise. Et enfin, j'ai commencé une fondation, Dieudonné Hermana Foundation, avec le but d'aller au-delà des jeunes que j'encadre, que ce soit au niveau de New Generation, au niveau de l'Église seulement, ou alors au niveau de l'entreprise, pour m'engager avec mon équipe sur des questions au niveau national. C'est là ce qui m'a conduit à être candidat aux élections présidentielles du Burundi en 2020. J'étais candidat aux élections présidentielles. Je suis participé dans les élections aussi pour les députés en 2025. Mais tout cela pour montrer aux jeunes que c'est possible, qu'on ne doit pas seulement laisser ce qu'on appelle entre guillemets les politiciens seulement prendre la responsabilité. Parce que, mais bien que je m'engageais dans ce genre d'activité, je ne suis pas dans aucun parti politique. Je faisais comme indépendant pour montrer qu'effectivement, même ceux qui sont dans la société civile ont la responsabilité de contribuer dans le développement de leur pays.
Et vous êtes un formateur leadership, vous êtes un formateur en entrepreneuriat, vous êtes aussi un excellent orateur et vous avez aussi voyagé à travers le monde. Donc ma question est, que pouvez-vous partager avec nous sur le rôle d'une personne qui a influencé le monde comme Mandela? Donc le rôle sur Mandela dans votre vie?
Bon, les personnalités comme Mandela sont des personnalités qui ont influencé beaucoup ma vie. J'ai jamais eu le privilège d'aller à Robben Island, là où il a été emprisonné. J'ai passé 5 jours dans la prison où il a été emprisonné avec l'envie de comprendre de comment ils ont pu survivre dans ces conditions-là. Alors, Mandela représente la résilience, le fait de ne pas abandonner, le fait de ne pas céder pour faire ce que tu ne crois pas juste pour faire plaisir, ou alors juste pour l'égocentrisme, gagner ce que tu as juste besoin dans ta vie. Alors, chaque fois que je m'engage à quelque chose, je me dis, si je n'ai pas encore dépassé 27 ans que Mandela a passé dans la prison, je n'ai pas le droit d'abandonner. Donc la résilience, la conviction, de tenir à tes convictions malgré les tempêtes, malgré tout ce que tu peux traverser, et de ne pas chercher le raccourci pour faire plaisir ou pour juste avoir un minimum, alors que tu pouvais obtenir quelque chose plus consistant pour ton peuple, pour des gens qui t'entourent. Donc, en un mot, je dirais que Mandela représente pour moi la résilience, le fait d'être attaché à ses convictions et de ne pas céder. Que tu vois le résultat dans l'immédiat ou que tu ne le vois pas, que ce sont d'autres générations qui le verront, au moins tu n'auras pas cédé pour aller dans le statu quo ou marcher dans la médiocrité. Donc c'est ça en fait qui m'inspire quand chaque fois je pense à sa personnalité.
Et en parlant d'inspiration, de New Generation au rôle de pasteur d'église Oasis, quelle est la place de la foi dans la construction d'une communauté solidaire?
Bon, moi je vais dans un autre sens, hein. Moi je pense que si on n'a pas la foi, on ne peut rien faire. Donc la foi, elle peut être la foi en Dieu, elle peut être la foi en soi, en ce qu'on va faire. Mais quand on parle de la foi en Dieu, c'est que d'abord on reconnaît qu'on personne d'entre nous n'a décidé de venir sur la planète. Donc personne n'a dit je vais naître sur la Terre. Même les parents, ce ne sont pas eux qui décident. Que tu sois un garçon ou une fille, ce n'est pas eux qui décident ce que tu vas avoir comme potentiel ou capacité intellectuelle. Donc, moi, en réalité, avec la guerre au Burundi, j'avais arrêté de croire en Dieu par rapport à la religion parce que j'étais déçu par des personnes qui disaient qu'ils marchaient dans la foi, mais en vrai, ils ont fait des mauvaises choses. Alors, je me suis dit, bon, finalement, Dieu n'existait pas. Alors, moi, j'ai lu la Bible pas avec l'intention de connaître Dieu. J'ai lu la Bible avec l'intention de prouver que Dieu n'existait pas. Mais c'est en ce moment-là que j'ai découvert des vérités qui m'ont ouvert les yeux pour me rendre compte qu'effectivement, il y a un Dieu qui existe et qui m'a donné une mission sur la terre. Donc, la foi, ce n'est pas seulement aller prier, se sentir bien, être une bonne personne. La foi, c'est de découvrir que tu as un cahier de charge, tu as un agenda, tu as une mission à accomplir. Et tu cherches à savoir. Celui qui t'a mis sur la terre, qu'est-ce qu'il avait comme planifié pour que tu puisses le réaliser? Alors, à ce moment-là, ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour accomplir une mission de servir l'humanité. Donc, pour moi, c'est ce que je comprends par la foi. La religion, c'est autre chose. La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu de sa manière. C'est cette communication qui est monologue, où tu parles à un Dieu qui ne te répond pas. Mais la relation avec Dieu que j'ai trouvée en ayant la foi en la rédemption que nous avons obtenue en Jésus-Christ te donne le sens de pourquoi tu es sur la terre, que tu n'es pas là pour toi, que tu n'es pas là pour remplir tes poches ou tes comptes, que tu n'es pas là juste pour survivre, mais que tu es là pour servir le reste de l'humanité. Donc pour moi, les plus peut-être 8 milliards de personnes sur la terre sont mes clients. J'ai quelque chose à leur donner. Il faut seulement que j'essaie de voir comment. À les atteindre et contribuer par les dons particuliers que Dieu a mis dans ma vie. Donc, quand j'enseigne les jeunes qui se sentent perdus, qui n'ont pas d'espoir, je ne leur enseigne pas la religion. Je ne leur enseigne pas la religion protestante ou catholique ou musulmane. Non, je leur parle de la relation avec leur Créateur, de découvrir chacun la relation avec le Créateur et de découvrir la raison pour laquelle ils sont sur la terre, pour ne pas manquer le but, pour marquer le but de l'existence. Donc, pour moi, c'est la fondation, c'est la base, mais il ne faut pas en faire trop religieux, où les gens sont là pour suivre les autres, qui ont conçu des choses, qui ne savent pas pourquoi ils ont été conçus comme ça, mais d'avoir cette intime et personnelle relation avec ton Créateur.
Merci, pasteur Dieudonné Nahimana. Ce n'est que le début de vous avoir sur Mucho Radio. Personnellement, j'ai appris beaucoup de cette interview et on vous souhaite un bon voyage de retour au Burundi.
Merci beaucoup, Marat. Merci pour l'invitation et je vous souhaite toutes les bonnes choses pour Mucho Radio. Merci beaucoup.
Merci.